Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Résistance.
Ambiance électrique, vous l'entendez aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bobigny. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon mobilisés, le leader de la France insoumise et 5 de ses proches jugés pour les altercations qui ont émaillé la perquisition des locaux du parti l'an dernier. Pour la deuxième fois, Emmanuel Macron fait la une du magazine américain Time.
My challenge is to listen to people. Much better than I did at the very beginning.
Mon défi, mieux écouter les Français, dit le président qui fait un mea culpa sur la crise des gilets jaunes. Ça va mal chez Aigle Azur, pas de repreneur sérieux. Et ce soir, c'est XL Airways qui se déclare en cessation de paiement et demande son placement en redressement judiciaire. Un incroyable essai clinique totalement illégal, réalisé sur des patients atteints d'Alzheimer ou de Parkinson. Il a dirigé la Tunisie pendant 23 ans avec une main de fer. Disparition aujourd'hui de l'ancien président Ben Ali. Et puis quand une panthère noire s'invite dans un appartement, grosse frayeur dans le Nord.
Elle était dans ma cuisine. Après, ma fille, elle l'a vue face à face, quoi. Elle n'était pas méchante, rien du tout.
Plus de peur que de mal, arme entière. La panthère a pu être maîtrisée sans problème. Le foot, après la Ligue des Champions hier, place à la Ligue Europa ce soir avec deux matchs, un partout entre Rennes et le Celtic Glasgow. Alors que Saint-Etienne souffre en ce moment sur le terrain de la Gantoise, les Stéphanois sont menés pour l'instant à la mi-temps par les Belges, 2-1. Du côté de la météo, ce sera quasiment comme aujourd'hui, demain, du côté du ciel aussi, hein, comme du côté des températures. La journée sera toutefois un peu plus compliquée dans le sud-est et la Corse avec des nuages très épais, porteurs d'averses et même des orages en montagne. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Adrien Leroux, le fondateur de Job Teaser, une application qui permet aux étudiants de mieux s'orienter.
Europe 1.
La République, c'est moi. Ces mots de Jean-Luc Mélenchon lors de la perquisition mouvementée des locaux de la France Insoumise ont marqué les esprits. Presque un an plus tard, le chef de file de la France Insoumise comparaît donc depuis aujourd'hui et jusqu'à demain soir pour rébellion, provocation, acte d'intimidation en compagnie de 5 de ses proches. Audience qui a notamment été marquée par une confrontation entre Jean-Luc Mélenchon et l'avocat maître Éric Dupond-Moretti. Chloé Triomphe, vous êtes sur place pour Europe 1. Chloé, le leader de la France Insoumise, s'est longuement expliqué cette après-midi et il a martelé sa ligne de défense très politique.
Oui, et c'est même très calmement que Jean-Luc Mélenchon s'est expliqué à la barre avec une grille de lecture effectivement totalement politique de ces perquisitions multiples et simultanées d'octobre 2018 chez lui, chez certains de ses proches et au siège de la France Insoumise. Pour son chef, il ne fait en effet aucun doute que la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur étaient, je cite, tapis derrière cette opération. Jean-Luc Mélenchon explique qu'il a donc eu une attitude adaptée au moment à l'agression et à l'humiliation, ce sont ses mots, ressentis à ce moment-là face à des policiers qui ne l'ont pas salué et face à un procureur qui ne s'est pas présenté, dit-il. Donc oui, je parle fort, je suis véhément, mais je n'ai frappé personne, affirme-t-il à la barre. S'ensuit une passe d'armes, combat d'éloquence et d'ironie avec l'un des avocats des policiers qui lui demande s'il s'excuse. En se tournant vers ces derniers, Jean-Luc Mélenchon répond « Je regrette de vous avoir perturbé par mes décibels au point d'avoir 7 jours d'ITT rire dans la salle. » Mais au-delà de l'ironie du ton, les débats se poursuivent sous la forme d'un dialogue de sourds entre deux camps, aux logiques et aux raisonnements totalement irréconciliables.
Chloé Triomphe au tribunal correctionnel de Bobigny pour Europe 1. C'est le magazine américain le plus connu au monde, le Time, qui consacre pour la deuxième fois sa une à Emmanuel Macron avec une interview fleuve dont une partie a été publiée en vidéo. Le président en anglais, interrogé sur les gilets jaunes ou encore sa petite phrase sur les chômeurs qui doivent traverser la rue et qui a fait une forme de mea culpa.
Mon défi, c'est de mieux écouter les gens que je ne l'ai fait au tout début, d'avoir une méthode, de ne pas réformer pour le pays, mais avec le pays. D'où le grand débat, être plus respectueux de ce moment avec les citoyens.
Emmanuel Macron qui, dans cette interview, regrette une forme d'impatience et il va même plus loin sur les gilets jaunes, Claudia Bertram.
Oui, le président confie que la crise des gilets jaunes a été très bonne pour lui, l'obligeant à changer d'attitude face aux Français. Ça m'a rappelé qui je devrais être, ajoute-t-il. Avant de faire l'autocritique de son début de quinquennat, il l'admet, il a été impatient et a pu donner le sentiment de vouloir réformer même contre les gens. Il explique « Parfois, mon impatience a été ressentie comme une impatience vis-à-vis des Français. Ce n'est pas le cas. » Arrivé à mi-mandat, il estime être dans la vallée de la mort. Les réformes ont été mises en œuvre mais n'ont pas encore donné leurs résultats. résultats. Il dit aussi ne pas tenir compte du surnom de président des riches que certains lui attribuent. C'est le système français qui veut ça, d'après Emmanuel Macron, qui affirme « Dans notre pays, nous aimons être dirigés, mais nous voulons tuer les dirigeants ». Enfin, le président affirme être serein pour l'avenir. Il sait déjà ce qu'il fera lorsque les Français ne voudront plus de lui à l'Élysée. « J'écrirai », dit-il.
Claudia Bertram, la journée de samedi sera-t-elle marquée par le retour en force des gilets jaunes, justement? En tout cas, le dispositif policier sera comparable à celui qui avait été mis en place au plus fort de la contestation, en particulier dans la capitale, avec la crainte d'un samedi noir et la menace d'intrusion dans les lieux ouverts à l'occasion des journées du patrimoine. Certains, d'ailleurs, exceptionnellement, n'ouvriront pas leurs portes. Les professionnels du médicament reçus à Matignon, Édouard Philippe annonce le renforcement d'un certain nombre de sanctions qui pourront aller jusqu'à 1 million d'euros contre les laboratoires qui n'anticipent pas assez la pénurie de médicaments. Ce matin, c'est la filière pétrole qui était reçue à Bercy. Le ministre de l'Économie a demandé aux principaux acteurs du milieu de ne pas répercuter la récente hausse des cours sur le prix des carburants à la pompe. Les personnels d'EDF étaient en grève aujourd'hui pour dénoncer le projet Hercule qui prévoit la scission des activités commerciales et de production.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h07 et je vous le disais, on a appris ce soir que la compagnie aérienne XL Airways est en cessation de paiement et demande son placement en redressement judiciaire. Depuis plus d'un an, la direction a négocié avec plusieurs repreneurs, mais ces négociations n'ont pas abouti. Et attention, ça vous concerne, si vous deviez voyager prochainement avec XL Airways, la compagnie est malheureusement dans l'obligation d'arrêter ses ventes à compter de ce soir. Certains vols sont même susceptibles d'être annulés. Pensez surtout à vérifier via leur site internet la compagnie qui emploie 570 collaborateurs et qui transporte chaque année près de 700 000 passagers. Une actualité qui se télescope avec celle d'une autre compagnie, Aigle Azur, qui, pour sauver les 1150 emplois, il y avait 13 repreneurs potentiels. Ils ne sont plus que 4 et ce qui inquiète surtout les salariés, Aurélien Fleureau, c'est qu'Air France a jeté l'éponge.
Oui, parce que pour plusieurs syndicats, il s'agissait de l'offre qui apportait le plus de garanties en termes d'emploi, Air France pour une grande partie du moyen courrier, et puis le groupe Dubreuil, propriétaire d'Air Caraïbes, pour la partie long courrier, une offre conjointe qui aurait donc permis de reprendre 80% des salariés basés en France. Mais selon Air France, le montage s'est avéré bien trop complexe et certainement trop contraignant sur le plan social, impossible d'harmoniser les contrats spécifiques de chaque compagnie. Et c'est justement pour essayer de contourner cet obstacle que la CFDT Aigle Azur travaille toujours en ce moment même à un accord de performance collective. Le syndicat espère convaincre le tribunal de commerce d'Evry qui va entendre les dernières offres lundi prochain. Parmi ces offres, justement, le retour du duo Lionel Guérin-Philippe Micoulot qui semblait avoir jeté l'éponge il y a quelques jours. Celle de Gérard Roy, actionnaire actuel d'Aigle Azur. Une offre partielle de l'espagnol Vueling. Et puis une dernière offre qui paraît plus baroque d'un ancien pilote d'AOM. Le tribunal prendra sa décision le 27 septembre prochain.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Les cigarettes électroniques peuvent-elles entraîner des maladies pulmonaires sévères? En tout cas, face à une recrudescence de cas aux États-Unis, les autorités sanitaires françaises ont décidé de mettre en place un dispositif pour permettre de signaler d'éventuels cas de pneumopathie. Aux États-Unis, plus de 380 vapoteurs ont présenté récemment de sérieux problèmes pulmonaires et 7 en sont décédés. Ça paraît assez incroyable. Des essais cliniques secrets réalisés sur au moins 350 personnes atteintes de Parkinson ou d'Alzheimer. Ça se passait dans une abbaye près de Poitiers, en dehors de tout cadre légal, un traitement sous forme de patch. Et c'est l'Agence du médicament qui a mis au jour ces tests illégaux menés par une structure dont le vice-président est le professeur Henri Joyeux, contesté par la communauté médicale, notamment à cause de ses positions anti-vaccins. Écoutez les précisions de Bernard Sely, il est le directeur de l'inspection à l'Agence nationale du médicament.
La confiance de ces patients était abusée. Des patients étaient reçus dans une abbaye, pas dans un établissement de santé. On leur appliquait le soir le patch et le matin, on leur faisait une prise de sang. Et c'est au moment où nous avons inspecté le laboratoire qui recevait ces échantillons sanguins que nous avons pu mettre en évidence la pratique d'un essai clinique dans l'illégalité la plus complète. Nous avons demandé aux professeurs de pharmacie qui l'organisent et au fonds Josepha de cesser cet essai et d'informer sans délai chaque participant. Aujourd'hui, nous leur demandons de ne plus utiliser ces patchs s'ils en ont encore chez eux et de consulter rapidement leur médecin traitant pour l'informer de la situation et réaliser un bilan de santé afin également de s'assurer de la reprise en charge de leur maladie. On pense que certains auraient pu arrêter le traitement habituel de leur maladie au profit de ce patch. On fait croire aux patients que ce traitement peut améliorer leurs conditions et on est aux confins du charlatanisme.
Le directeur de l'inspection à l'Agence nationale du médicament, joint pour Europe 1 par Hélène Terzian.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et on l'a appris en fin d'après-midi, la disparition de l'ancien président tunisien Ben Ali, qui avait été renversé par la révolution en 2011. Il vivait depuis en exil en Arabie Saoudite. Jean-Sébastien Soldaini, avant le printemps arabe, il a dirigé la Tunisie d'une main de fer pendant près d'un quart de siècle.
Une main de fer et un système mafieux installé au plus haut sommet de l'État. Ben Ali dirige ce que certains appellent une kleptocratie. Ses opposants font plus simple. Le président voleur, 5 milliards d'euros détournés, un quart des bénéfices du secteur privé. Banque, télécom, tourisme, lui et sa belle famille accaparent tout jusqu'au bulletin de vote. Son dernier score en 2009 dépasse 90% des suffrages. La colère monte jusqu'à la révolte de 2011, poussée par le chômage, la corruption. La rue ne lâche pas pendant près d'un mois, jusqu'à la fuite en avion de celui qui avait innové dans l'art du coup d'État. Un coup d'État médical pour évincer Habib Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne, est alors président à vie. Mais Zine El Abidine Ben Ali, son premier ministre, ordonne à 7 médecins de déclarer Habib Bourguiba inapte. Son arrivée au pouvoir est empreinte d'optimisme car il promet l'ouverture, optimisme de courte durée versus présidence au long cours. 23 ans de pouvoir qui marquent le pays et les esprits au fer rouge car Ben Ali laisse encore des partisans. Derrière lui, une des candidates à la présidentielle en cours se présentait comme son héritière politique. Elle n'a pas passé le premier tour, classée 10e. Désormais, la question qui se pose, c'est où sera enterré l'ancien président ? À Jeddah, dans l'indifférence, où il est mort, ou bien en Tunisie, mais difficile d'imaginer de telles funérailles dans son pays tant il était détesté.
Les précisions de Jean-Sébastien Soldaini. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui joue sa survie politique, appelle son rival Benny Gantz à la formation d'un gouvernement d'union nationale, deux jours après des élections législatives qui, vous le savez, n'ont pas réussi à les départager. D'accord, répond Benny Gantz, mais à condition que je dirige ce gouvernement. Dimanche, le président israélien entamera des consultations pour désigner le futur premier ministre. Le douloureux réveil ce matin pour un couple de châtelains, deux nonagénaires, propriétaires du château de Vaulx-Vicomte, surpris par des hommes cagoulés à l'inco.
Oui, les propriétaires du château ont été surpris dans leur sommeil vers 4 heures du matin. Surpris par 6 hommes, cagoulés, gantés, mais pas armés. Ce n'était pas nécessaire. Le comte Patrice de Vauguet a 90 ans et son épouse 78. Le couple n'a pas été frappé, mais ligoté avec des cravates trouvées sur place. Les voleurs sont repartis avec le contenu du coffre. Environ 2 millions d'euros de bijoux et de pierres précieuses. Ils étaient bien renseignés. Dans cet immense domaine, entouré d'un mur d'enceinte de 13 kilomètres, ils ont uniquement ciblé les appartements privés des propriétaires, pas le château lui-même, beaucoup mieux protégé. Les voleurs n'ont donc pas touché aux collections de Vaulx-Vicomte, ce chef-d'œuvre architectural du XVIIe qui avait suscité la jalousie de Louis XIV et servi de modèle à Versailles, est resté ouvert aujourd'hui au public et il le sera encore évidemment ce week-end pour les journées du patrimoine.
Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1. Mettez-vous maintenant une seconde à la place de ces habitants d'Armentières dans le Nord qui ont eu la surprise hier de voir une panthère qui se baladait tranquillement sur les toits et qui est même rentrée dans certains appartements, notamment celui de Sylvie qui raconte sa frayeur au micro de Lionel Gougelot.
Elle est descendue, elle était dans ma cuisine, après elle était dans mon escalier, après ma fille elle l'a vue face à face quoi. Et après bon, elle est remontée, elle était dans le chéneau, elle n'était pas méchante, rien du tout quoi. La preuve, j'ai pu la repousser parce qu'elle voulait rentrer dans la chambre à ma fille. Elle a rien fait du tout quoi.
Elle voulait rentrer.
Ouais, elle voulait rentrer.
Et à ce moment-là, les pompiers sont intervenus donc.
Ils n'ont pas cru. Hein. Mais moi, je criais au téléphone. J'ai été mal poulie avec eux parce que là, j'avais peur quand même quoi. Ma fille, elle dit, ils veulent pas me croire. Je sais quoi. Ils disent que c'était un petit chat. Je passe le moi. Vous allez bouger votre cul. C'est parce que moi, il y a vraiment une panthère noire. Oui, mais il faut nous envoyer une photo. Mais alors, j'ai commencé à m'énerver. Et après, bon, les pompiers sont arrivés. Je pouvais plus sortir de chez moi.
Et là, elle a été entre guillemets neutralisée.
Ouais. Ils l'ont mis dans la cage. Et après, bon, ils l'ont ramenée dans un LPA à Lille. On m'a dit peut-être que ça sera mieux pour elle, quoi, si elle irait mieux dans un zoo. Je ne comprends pas les gens qui puissent avoir ça chez eux, quoi. Ils sont irresponsables.
Voilà pour ce témoignage étonnant de Sylvie qui a vu la panthère dans sa cuisine. Elle était au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. L'animal appartenait à un particulier qui est toujours recherché. C'est évidemment illégal, le félin qui est très jeune, hein, visiblement 5 ou 6 mois. Et puis il y a du foot ce soir, deux rencontres de Ligue Europa. Le premier match, c'était Rennes qui recevait le Celtic Glasgow, un partout entre les deux équipes. Et l'autre match de la soirée est encore en cours. Saint-Etienne se déplace sur le terrain des Belges de la Gantoise. C'est compliqué hein, pour les Stéphanois qui sont toujours menés 2-1. Et puis il y aura désormais un ballon d'or spécial gardien, le prix Yachine du nom du gardien de l'URSS, Lev Ivanovitch Yachine, dernier portier nommé meilleur joueur du monde, c'était il y a 56 ans. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Anissa Haddadi. Anissa, comment s'annonce la journée de demain ?
Eh bien Isabelle, demain le temps est encore agité dans le sud, sur le pourtour méditerranéen, le Languedoc-Roussillon, le Massif central et la Corse. Là, le ciel est nuageux dès le lever du jour avec des averses à prévoir demain après-midi et même des orages sur les reliefs. Le vent d'Autan se lève demain, il va souffler jusqu'à 60 km/h. Sur le reste du pays, c'est-à-dire l'Aquitaine, le Pays de la Loire, les côtes de la Manche, le Nord, la région parisienne, la Bourgogne, l'Alsace, la région lyonnaise et le centre, j'espère que j'ai oublié personne, là le soleil brille avec tout de même le vent de nord-est qui lui aussi souffle assez fort demain dans la moitié nord. Du coup, les températures, elles sont comprises entre 7 à 19 degrés le matin du nord au sud et demain après-midi, vous aurez 20 degrés à Cherbourg, 22 à Nancy, 25 à Paris, 27 à Nîmes et 32 à Mont-de-Marsan.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le fondateur de Job Teaser. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et à 22h17, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui hésite hein, après les dernières manœuvres de la réserve fédérale.
On tourne autour du pot. Le Dow Jones 7, 0,2%, 27 094 points. Le Nasdaq prend quand même 0,07%, une hausse à 8 183 points. Le geste de baisse des taux de la réserve fédérale américaine d'un quart de point soutient à la marge le marché. La Banque centrale américaine continue d'injecter massivement en parallèle des liquidités pour aider le marché sur fond de révision en chaîne des prévisions de croissance. L'OCDE n'attend plus qu'une croissance de 2% aux États-Unis seulement en 2020, l'année prochaine donc, contre 2,3% précédemment. Ce sont des révisions qui arrivent un peu au compte-gouttes et qui confirment qu'il y a un vrai ralentissement.
Ouais, qui sont inquiétantes. Hein.
Exactement. Mais s'il y a ralentissement, il y a geste de la Banque centrale américaine pour aider le marché. Donc c'est tout le paradoxe. Ça soutient quand même la tendance en bourse. Sur le pétrole, l'ambiance est beaucoup plus calme sur le baril. On est stable autour des 58$ ce soir. Aux valeurs de technologie, il y a quelques hausses quand même à noter. Microsoft, plus 1,8%. Le groupe va racheter pour 40 milliards de dollars de ses propres actions pour aider donc le titre. Google aussi, plus 0,5%. Amazon, plus 0,2%. De petites hausses sur Facebook, plus 1%. En revanche, l'exception du jour, c'est Apple qui perd 0,8% ce soir à 221$.
La Bourse de Paris, elle, a gagné du terrain proche de ses sommets annuels.
Oui, finalement, on se rapproche progressivement des sommets à 5 659 points. On est passé à 10 points près de ce pic annuel aujourd'hui, plus 0,68% sur le CAC 40. La baisse des taux de la Réserve fédérale après la baisse des taux de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, la semaine dernière. Tout cela soutient la tendance, donc. Et puis aussi, il y a les publications d'entreprises plutôt encourageantes. Comme aujourd'hui Aubay, au service informatique. Aubay grimpe de 4,5%, le bénéfice net progresse de 4,2%, bénéfice net semestriel à 11,5 millions d'euros. Du côté des holdings, Tikeo monte aussi de 3% après des comptes en amélioration. Et puis les banques progressent, plus 2% sur BNP, Société Générale, Natixis, Crédit Agricole. À noter aussi Casino qui remonte de 2,2%, 43,83€. Le distributeur négocie la cession de Leader Price à l'allemand Aldi.
Il y a quand même une exception, Didier, c'est Carmat, le concepteur de cœurs artificiels, qui recule nettement à la clôture.
Oui, parce que financer la recherche et les essais sont en train de reprendre, ça coûte cher.
Ça coûte cher, oui.
Et 60 millions d'euros d'augmentation de capital, donc des fonds levés sur le marché, ce qui plombe évidemment la valeur. Moins 9% ce soir, une hausse du nombre de titres en circulation, ça fait baisser mécaniquement le cours de bourse qui revient sous les 20 euros ce soir, 19,30€ à la clôture. Sur les autres places financières, ça monte légèrement sur le DAX à Francfort, plus 0,5%, Bruxelles, plus 0,7%, Milan, plus 0,8%, Madrid gagne plus d'1%. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,68%, 5 659 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hamot de boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité Écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le fondateur de Job Teaser.
Bonsoir Adrien Ledoux.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Job Teaser. C'est une application qui permet de mieux s'orienter. On a eu envie de vous inviter à double titre, déjà pour mieux vous connaître là-dessus, puisqu'on va voir à quel point c'est passionnant, et puis aussi parce que vous êtes en plein dans l'actualité. Alors peut-être que nos auditeurs n'ont pas tous entendu parler, même si on en a pas mal parlé sur Europe 1. Emmanuel Macron a annoncé mardi soir qu'il allait mettre beaucoup d'argent pour mieux aider les entreprises comme vous. Mieux aider à faire quoi ? À faire en sorte que vous restiez français et que vous arriviez à vous développer. Donc principalement de l'argent qui va être plus facile à trouver. Puis pas mal de systèmes qui vont vous permettre de mieux vous développer. On va y venir là-dessus dans un instant. Mais j'ai envie, avant, qu'on parle de l'orientation. Parce que c'est votre métier. 9 étudiants sur 10 disent qu'ils auraient pu être mieux préparés à leur orientation et que 1 sur 2 ne sait même pas ce qu'il veut faire de son avenir. Et vous, vous lui permettez un, de mieux savoir, deux, d'être mieux préparé, et trois, peut-être de trouver un job. C'est à peu près comme ça qu'on peut résumer Job Teaser ?
Exactement, c'est pour ça qu'on a créé Job Teaser. C'est qu'on est parti d'un constat simple, c'est que la transition entre le monde étudiant, d'une part, et le monde professionnel n'était pas tout à fait bien assurée. Et on s'est donné comme mission de permettre aux jeunes talents de trouver leur juste place dans la société, pour trouver le métier qui leur correspond vraiment, dans lequel ils vont se sentir bien.
Comment vous le faites mieux ? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ?
Alors, l'innovation chez Job Teaser, c'est d'une part que c'est la première plateforme qui allie orientation professionnelle, notamment grâce à du contenu qui permet de découvrir les entreprises, découvrir les métiers, et recherche de stage et emploi. Avant, c'était un peu disjoint, ces deux éléments. Et le deuxième élément, c'est que cette plateforme carrière qu'on a construite, elle est intégrée directement au sein des écoles et universités. C'est-à-dire que jobteaser.com est le site carrière officiel d'un certain nombre d'universités, quasiment plus de la moitié en France.
Ça vous va si je dis que vous êtes le pôle emploi intégré aux universités avec un lien du coup direct avec les entreprises qui, elles, cherchent les profils? C'est vraiment ça l'idée?
C'est une excellente image. En fait, on permet aux entreprises d'accéder à un plus large nombre de talents parce qu'avec une application, donc Job Teaser, elles peuvent diffuser leur contenu, leurs offres dans plus de 600 établissements en Europe maintenant.
Là, pour le moment, quand je suis allé regarder sur votre application, on est quand même principalement sur des jeunes plutôt bien formés, qui ont déjà un bon niveau d'études. Ceux qui ont vraiment du mal à trouver un job, c'est ceux qui n'ont pas ce bon niveau d'études. Et justement, là aussi, vous voulez évoluer. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous venez de lever énormément d'argent pour réussir à faire ça, pour que finalement, les entreprises changent de logiciel et se disent « il n'a peut-être pas le bon diplôme, mais il a d'autres qualités et il saura faire le job ». C'est ça aussi l'idée ?
Absolument. Notre mission qu'on s'est donnée vraiment depuis le début, c'est d'aider un maximum d'étudiants et de talents, de jeunes diplômés. Donc, on n'a pas envie de se limiter à l'enseignement supérieur. On a commencé par là, parce que c'est là d'où on venait et c'est le monde qu'on connaissait, mais on a envie d'aider tous les talents. Et les entreprises ont aujourd'hui de plus en plus de mal à recruter ces talents et elles vont devoir s'ouvrir en fait à d'autres talents, d'autres potentiels. Et avec notre parcours d'orientation en ligne qu'on est en train de construire, Marco en étant la première brique, on va les aider à recruter autrement que juste par le diplôme, parce qu'un talent, c'est aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ses compétences, ses aptitudes. Et en ayant ces informations-là, on va pouvoir guider le candidat et peut-être lui donner une chance qu'il n'aurait peut-être pas eu avant, juste avec
c'est
son diplôme.
C'est pour quand ?
Alors, le premier test Marco est déjà en ligne. On peut le trouver très directement. L'idée, c'est que d'ici à peu près quelques mois, on va lancer un deuxième test, un test dont le but, c'est de permettre au candidat de mieux se connaître. Parce que quand on a entre 20 et 30 ans, le plus important, et même plus tard d'ailleurs, c'est de comprendre qui je suis, quels sont mes talents, qu'est-ce qui me motive. Et une fois que je connais ça, je vais trouver un emploi qui me consomme le moins d'énergie, dans lequel je me sens le mieux, et il n'y a pas de risque qu'au bout de 4-5 ans, j'ai envie de switcher parce que je ne suis pas à la bonne place. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer tout un parcours, et tous les 3-4 mois, on va lancer des nouvelles briques de ce parcours pour que d'ici, disons, un an, tout le parcours soit disponible en ligne.
Ce qui est aussi passionnant, c'est qu'on est d'un moment assez étonnant. Alors, il y a effectivement beaucoup de chômage, mais pour ceux qui ont eu la chance d'être bien formés dans les métiers qui recherchent des collaborateurs, le rapport de force a totalement évolué, puisqu'aujourd'hui, ce sont les candidats qui choisissent l'entreprise. C'est une réalité ?
C'est quelque chose qu'on mesure tous les jours, déjà dans nos propres recrutements. On a la chance d'avoir une mission qui a beaucoup d'impact et qui a beaucoup de sens, et ça nous permet, nous, Job Teaser, de recruter beaucoup de talents. Et on voit maintenant des entreprises qui, avant, n'avaient pas de difficulté à recruter, mais maintenant, des talents qui leur disent « bah en fait, je n'ai pas envie de venir chez nous parce que je ne vois pas l'impact, je ne vois pas le sens. » Et c'est toute une génération qui a envie de changer les choses, de faire bouger les lignes. Et si elle sent...
Mais ça se matérialise vraiment ? Les entreprises avec lesquelles vous travaillez, ouais, elles sont véritablement en train de changer d'état d'esprit ?
Elles sont en train de changer parce qu'elles sont en train de voir des candidats qui, par exemple, font un stage et qui, pour la première fois, à la fin du stage, disent « en fait, je ne vais pas continuer ». Alors qu'il avait une proposition en fait, d'embauche, parce que je ne me sens pas épanoui et j'ai besoin de plus de sens. Et donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui partent, notamment dans les plus petites structures, parce que dans une plus petite structure, dans une start-up notamment, c'est peut-être plus facile de voir l'impact qu'on a.
Alors, je rappelle, vous avez fondé Job Teaser, qui est aujourd'hui le leader de l'orientation sur les jeunes talents. Et vous avez eu une grosse récompense avant-hier, puisque vous êtes entré dans ce qu'on appelle le Next 40. Alors, c'est un peu barbare, mais c'est un peu le CAC 40 des entreprises qui réussiront demain. Vous avez été choisi. Déjà, comment ça se passe? On a candidaté ou vous avez reçu un jour un petit coup de fil vous disant « on vous met dedans »
Alors, en fait, on a reçu un mail pour participer. Donc, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a été identifié comme potentiel entrant. Et après, c'est sur des critères objectifs qu'on a été sélectionné, de croissance, de chiffre d'affaires, de montant levé. Et voilà, donc toute l'équipe a été ravie de l'apprendre parce que c'est un signal fort de l'utilité de Job Teaser.
Alors, de façon très concrète, le président de la République a annoncé 5 milliards d'euros pour aider les entreprises comme vous à trouver des fonds. Et l'idée, c'est vraiment de grandir en France, de produire en France et de rester français au niveau du capital. Ils existent vraiment, ces 5 milliards, vous y croyez, vous?
Je pense qu'ils existent parce qu'on voit vraiment déjà que l'écosystème de la French Tech est en train de se renforcer. On voit de plus en plus de capitaux qui arrivent.
Ce qui est aussi intéressant, et c'est peut-être ça finalement le plus important au-delà de l'argent, c'est que toutes ces entreprises dont vous faites partie, vous allez avoir une aide technique ciblée pour répondre à vos besoins de financement, mais pas que à trouver justement les talents pour continuer de grossir. Et puis, oulala, ça, on nous promet toujours ça, mais il paraît que ça marche. C'est une simplification administrative. C'est le cas? Vous avez aujourd'hui une nounou pour vous au sein de l'État?
En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a entendu comme message. Il y aura un correspondant en fait, dans chacun des ministères pour donner un accès facilité. Si, par exemple, on veut rentrer avec le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que nous, on a envie de travailler de plus en plus avec l'université, on aura un contact. Si on veut faire plus de recherche et développement aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut accélérer les choses pour nous.
Eh bien, merci beaucoup, Adrien Ledoux, le fondateur de Job Teaser, qui était donc notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
À demain et merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Camomille, c'est le titre de l'édito de Christophe Hérigaud dans la Nouvelle République du Centre-Ouest qui revient sur le procès de Jean-Luc Mélenchon. Le casting était pourtant prometteur, écrit-il, le président d'un grand parti, plus déchaîné que jamais, confronté notamment à un avocat maître en coup de théâtre. Certes, le face-à-face houleux entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Dupond-Moretti fut probablement à la hauteur de certaines attentes insoumises. Mais qu'en retenir? Que le premier, malgré son arrogance naturelle, a probablement tout à perdre, y compris en conseillant au second de prendre un peu de camomille. L'image de Jean-Luc Mélenchon se dégrade fortement, poursuit Christophe Hérigaud, avec 72% de mauvaises ou de très mauvaises opinions, même parmi les électeurs de gauche et d'extrême gauche, quand un an auparavant, 42% des Français avaient encore une bonne perception de lui. Croissance, pourquoi le monde s'inquiète, titre le journal Les Échos. On en parlait tout à l'heure avec Didier Hameau. L'OCDE a de nouveau revu en baisse à 2,9% ses prévisions pour cette année au niveau mondial. La France et l'Allemagne sont divisées sur une relance de leurs dépenses publiques. Les cadres vache à lait du macronisme, écrit le journal L'Opinion. Dans la plupart des réformes du quinquennat, ils seront les grands perdants. Pourtant, ils ont voté en masse pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Finiront-ils par se lasser, s'interroge le journal. Avec ce dessin de CAC pour illustrer, on y voit le président français qui discute avec la chancelière allemande et qui lui dit « Et puis bien sûr, il y a les réformes les plus impopulaires, celles qui ne passeront jamais. » Réponse d'Angela Merkel, celles-là, on ne les applique qu'au cadre. Et puis à la une de Libération, demain, l'un des personnages de la célèbre série La Casa des Papel avec son masque de Dali. Pourquoi? Eh bien parce que Libération s'intéresse à Netflix avec ce titre, La saison des menaces. 5 ans après son arrivée en France, la plateforme qui a bouleversé le rapport à la télévision doit se réinventer face à Disney et Apple. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et je vous signale rapidement que Rennes est désormais menée 3-1 face aux Belges de la Gantoise en Ligue Europa. Je vous souhaite une excellente soirée sur ce à l'écoute d'Europe 1, en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Olivier.
Alors c'est Saint-Etienne qui est mené 3.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, mais vous avez dit Rennes,
mais
c'est pas grave.
Bien sûr, c'était l'autre match. Heureusement que vous êtes là.
Moi, je vous en prie.
C'était écrit en tout petit sur ma télé.
D'accord. À tout à l'heure, Isabelle, pour le flash de 23h.
Merci.
Au revoir.